Bonjour à toutes et à tous, alors on est au deuxième jour de ce festival de Cannes. On vient de voir un gros morceau, puisqu'on vient de voir Furiosa, une saga Mad Max. On va l'appeler Furiosa, hein, ça ira plus vite, même si on pourra parler du sous-titre. Donc il est présenté hors compétition, on l'a vu ce matin. C'était un film qui était très attendu, évidemment, puisque Fury Road, évidemment, est un film aussi qu'on apprécie. Donc l'histoire du film, elle est assez centrée sur justement Furiosa, la jeunesse de Furiosa, et comment elle est devenue l'impératrice Furiosa, donc dans la citadelle qu'on connaît bien du coup et qu'on revoit évidemment dans ce film-ci. Josué, quel est un peu ton sentiment sur cette donc préquel de Mad Max Fury Road?
Je crois que notre sentiment est un peu commun, c'est-à-dire c'est bien, mais il y a quand même un mais. À mon avis, qui tient justement, on peut partir de là, on peut partir du titre, c'est-à-dire que Fury Road, quelque part, synthétisait une trajectoire qu'on a beaucoup commenté, hein, une trajectoire d'aller-retour, une espèce comme ça de scénario un peu cristallin, réduit à l'os, qui se centrait beaucoup donc sur l'idée d'une course-poursuite et donc l'action vraiment au cœur des choses. Alors que là, on part déjà d'un personnage. Alors que Mad Max, justement, dans Fury Road, devenait presque un personnage secondaire.
Bah, Fury Road, déjà, c'est pas le même sous-titre.
Voilà, et Fury Road n'est pas le même sous-titre. Et puis surtout, on a l'idée d'une saga Mad Max qui met d'emblée le film sur les rails de quelque chose qui serait de l'ordre de la mythologie. Et d'ailleurs, un peu l'acmé, la réplique acmé du film, c'est le grand méchant qui lance à Furiosa. Est-ce que tu as en toi quelque chose de mythique, d'épique? Est-ce que tu as cette capacité-là de devenir une forme d'icône? Et je pense que le film est un peu partagé entre ces deux voies, c'est-à-dire que... Alors, il y a des petites scènes d'action d'emblée, mais moi, j'ai par exemple été surpris de retrouver une grande scène d'action à la Mad Max au bout d'à peu près 1h, 1h15. Et je pense que ça raconte quelque chose...
Le film dure 2h30, voilà.
Donc le film dure 2h30, et il faut le dire tout de suite, les scènes d'action sont... Alors moi, je les trouve vraiment extraordinaires. Enfin, il y en a 2-3 que je trouve vraiment extraordinaires. Et peut-être au moins au niveau de Fury Road, mais même par moment, je me demande si ce n'est pas au-dessus. Dans quelque chose qui n'est pas seulement une forme de raffinement, des raccords,
quoi.
Etc. Mais au-delà de ça, par exemple, il y a des micro-plans séquences. Il y a une manière vraiment de décomposer l'action, de faire surgir même des corps volants, etc. Enfin, je trouve qu'il y a des scènes d'action qui ne ressemblent pas forcément au côté très heurté et très en gros plan de Fury Road. Il y a quelque chose d'un peu différent quand même dans la topographie, le découpage des scènes d'action. En revanche, il y a tout ce truc de l'iconisation, de la mythologie. Et moi, je trouve ça très frappant, par exemple, des souvenirs que j'ai de Fury Road, que j'ai quand même vu 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Il y avait quelque chose que j'aimais bien aussi, c'était qu'au milieu de l'action, il y avait tout d'un coup une mythologie qui apparaissait, c'est-à-dire qu'on avait les War Boys, on avait le moulin à balles, qui était un truc...
Witness Me.
Voilà, qu'on voyait au loin. Et donc, il y avait tout d'un coup quelque chose presque de cartoonesque qui surgissait à l'intérieur d'un mouvement et qui ajoutait une espèce de couleur très étrange. Je pense, l'exemple canonique de ça, c'est Lulu Berlu qui joue de la guitare, qui crache du feu. C'est-à-dire qu'on se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Je me souviens aussi, quand, avant la toute dernière grande scène d'action, on voyait Immortan Joe en train de faire des espèces de bogorim en faisant une espèce de position de yogi. Enfin, c'était une scène très étonnante, presque un peu bizarre, où tous les personnages étaient en train d'entonner un espèce de chant presque tibétain. Enfin, il y avait des choses comme ça qui étaient...
Et en attendant le retour donc, du convoi.
Voilà, et ça surgissait comme ça, et ça donnait une espèce de couleur presque de cartoon à un film d'action, par ailleurs, qui était beaucoup dans la tôle et quelque chose de très brutal. Et là, quelque part, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va déplier l'action, on va déplier les traumas de Furiosa, on va voir un peu plus comment s'organise le monde de la citadelle, cette triangulation entre le pétrole, les balles, la nourriture, les rapports entre chefs de guerre, etc. Avec quand même un ajout qui est, à mon avis, un peu un des points forts du film, qui est cette espèce de méchant joué par Chris Hemsworth, que je trouve très bien. Moi, vraiment, je sais que c'était un peu une interrogation.
Dementus, voilà.
Dementus, et qui, en fait, apparaît comme une espèce de figure démoniaque extrêmement brillante et charismatique, et qui se révèle être un méchant plus rutilant qu'une fausse légende, une fausse icône, qui est d'ailleurs un peu burlesque, qui ajoute quelque chose d'un peu maladroit.
Le comique du film vient beaucoup de lui. Hein,
oui, d'ailleurs, c'est presque bizarre. C'est un peu comme Genghis Khan ou la dynastie mongole, c'est-à-dire que c'est vraiment un scavenger, c'est vraiment quelqu'un dans la conquête, mais dès que par exemple il a conquis, qu'il doit administrer un espace, ça s'étiole, il devient grisonnant, c'est un mauvais chef de guerre. Non, ça c'est intéressant, il y a des idées comme ça, un peu de c'est un bon méchant décevant, quoi. Je trouve que là Miller dévie un peu des attentes, mais voilà. Donc pour résumer, à mon avis, l'intérêt mais aussi la limite du film, c'est à dire que il est un peu écartelé entre d'un côté la mythologie, et je pense que la question de l'iconisation de la mythologie, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément totalement dans le cinéma d'action de ce calibre-là, qui est celui de Miller, etc., mais qui fait toujours un peu partie du programme. Et puis, une pure logique d'action, et il faut le dire, il y a 3-4 séquences qui sont quand même assez fabuleuses et qui se hissent tout à fait au niveau de Fury Road.
Oui, c'est exactement un petit peu, on va dire, c'est la partie qu'on attendait le plus. Ça va être justement le découpage de l'action, ouais. Le dépliement d'un geste, d'un
et
mouvement.
Et ça, il faut dire, le film ne déçoit pas là-dessus.
Voilà, ça c'est clair. Il déçoit en termes de, on va dire, plutôt de répartition, on va dire, des énergies dans le film. Je prends un exemple tout simple, c'est-à-dire que le film est quand même un certain temps avant de démarrer le moteur, quoi, on va dire. Il y a donc une longue introduction, le film est découpé en chapitres, ça c'est assez étonnant aussi, ça...
C'est plus morcelé,
ouais. Complètement dans cette idée de mythologie, puisqu'on a des chapitres avec des titres plus ou moins explicites. Et donc, en fait, il y a bien une 30-40 minutes au début de mise en place, on va dire, avec quelques scènes d'action déjà assez réussies, mais c'est des petits morceaux.
Oui, mais qui sont donc très bien aussi.
Ouais. 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 Et le film met quand même un certain temps à démarrer, là où Fury Road, pour le coup, n'attendait pas grand... Enfin, il n'y avait pas grand-chose à mettre en place, on va dire. C'était tout de suite le convoi qui s'est lancé vers son objectif, et puis après qui déviait très rapidement de sa route. Et... je pense que ça peut être intéressant d'évoquer 3000 ans à t'attendre, donc qui est le film que George Miller a réalisé entre Fury Road et Furiosa, et donc dont on a fait d'ailleurs une vidéo à Cannes il y a 2 ans.
Et qu'on a beaucoup défendu.
Et qu'on aimait beaucoup, qui était un film qui, exemplairement, était sur la mythologie, ou en tout cas sur la place, en tout cas des mythes, et le rapport surtout entre mythes, réalité, entre passé, présent, et donc et d'ailleurs l'idée du film c'était plutôt comment les deux s'entrelaçaient.
Voilà. Oui, c'est marrant parce qu'il y avait aussi un autre point commun, c'était la fragmentation, c'est-à-dire que c'était aussi un film chapitré, et c'était aussi un film de micro-récits, avec des sauts dans le temps, des ellipses, donc en fin de compte, il y aurait presque...
Les trois contes.
On pourrait dire que Furiosa est un peu la synthèse des deux, sauf que je pense que ce qui était vraiment intéressant dans 3000 ans à t'attendre, c'était que le lieu du récit, qui était la chambre, qui était vraiment presque le catalyseur vraiment de toute l'idée, de la fable, etc., ouvrait sur des formes, sur une cosmogonie numérique, et là c'est un peu moins le cas, c'est-à-dire qu'il y a quand même un scénario, un récit de vengeance, le portrait d'une figure qui est plus peu à peu iconisée, c'est-à-dire que l'idée c'est de transformer, c'est de faire jaillir Furiosa presque bout par bout, hein, son bras mécanique, sa posture, son regard, son crâne rasé, enfin voilà, il y a un travail presque progressif de on va façonner une icône, et le film d'une certaine manière est dans la création d'une icône et des différents méchants rivaux qu'elle rencontre qui vont permettre comme ça de faire jaillir cette figure qui sera un peu mythologique. Et en fait, bon, ça, ce volet-là, il passionne probablement Miller qui, il faut le dire, hein, est un peu un cinéaste démiurge qui travaille cette saga depuis ses tout débuts, qui a inventé...
Une forme de fascination pour ses personnages.
Qui a inventé l'univers, il est au 5e film Mad Max. Là, il est dans la barre de ça. Mais par exemple, il y a un détail qui est très, très curieux. Le film se raccorde vraiment à la toute fin sur... l'un des points de départ de Mad Max, qui est le départ du convoi, avec l'idée que les femmes nourricières sont cachées dans la citerne. Et il fait un truc très bizarre, c'est que dans le générique, on revoit des plans de manière linéaire de Mad Max Fury Road, et on voit en fait tout le récit comme des spasmes, comme ça, des grandes acmés du film. Et donc en fait, on a une version accélérée, d'un montage accéléré de Fury Road à la fin. Et ça fait vraiment un petit peu montage YouTube. Cette manière de raccrocher les wagons.
Cette manière de mythologiser, encore une fois, le premier film, de l'inscrire dans ce
et
régime.
Et de le montrer vraiment comme dans la continuité de ça, de voir tout l'envers de la mythologie. Mais en fait, la mythologie fonctionnait bien mieux dans Fury Road, sur juste des éclats, comme on disait un petit peu au début de notre débat, sur des flashs, où c'était complètement absurde de se dire, mais là, il y a un personnage qui fait les comptes et il se triture les tétons. Enfin, non, mais il y avait vraiment quelque chose de vraiment un peu, d'un peu étonnant en termes d'imagerie, avec ses défauts d'ailleurs. Je suis pas dans la défense de l'imagerie de Max.
Dans le premier film, les deux se nourrissaient l'un l'autre. Hein, ouais. Je prends un exemple très simple, c'est comment était mise en scène. Là, je me suis demandé, en revoyant Fury Road juste avant le festival, de pourquoi l'action était aussi limpide et pourquoi on a autant salué le montage des scènes d'action de Mad Max. C'était aussi parce que chaque geste, chaque cascade, chaque opération de sauvetage était un peu ritualisé, c'est-à-dire qu'on avait la préparation, on avait des plans sur le saut qui allait se préparer, sur l'arme qu'on allait recharger, qu'on allait utiliser ensuite, et donc quelque part ça iconisait quelque part chaque geste en fait, et donc les deux se nourrissaient l'un l'autre, c'était beaucoup plus, on va dire, entremêlé.
Oui, là, dans Fury Road il y avait quelque chose d'être plus ouvertement mécanique, alors que là j'ai l'impression qu'on est encore plus dans la chorégraphie, et il y a des plans, par exemple le plan des balles qui coulissent sur Crescent Wharf, ou vraiment des plans qui sont même beaucoup plus larges, et vraiment on voit l'action se déplier. Il y a des bouts de plans séquences, des lancers de moto, enfin il y a vraiment des idées, j'ai l'impression quand même, qui travaillent quelque chose qui est presque encore plus opératique et moins dans l'engrenage mécanique où Fury Road, il y avait vraiment un côté, on voyait les
côté musical, quoi. Presque aussi.
Aussi. Et je pense que ça se joint à cette idée un peu d'une fresque, d'une saga, de quelque chose qui serait opératique. D'ailleurs, la meilleure amie de Fury Road s'appelle Valkyrie, donc on est sur quelque chose comme ça, un imaginaire aussi un peu wagnérien. Et ce qui est curieux, c'est que je pense que c'est un peu la limite du du scénario récit. Et en même temps, ça donne cette couleur aux scènes d'action qui ne sont, à mon avis, pas que de la redite de Fury Road, qui développe aussi quelque chose de Fury Road prime, si on peut dire ça comme ça. Et ça, pour le coup, je trouve vraiment que le film excelle sur scène d'action.
Oui,
et ça, ça reste un film qui est un peu plus...
Il y a une scène d'ailleurs au milieu du film, la première scène vraiment de Fury Road, mais elle amplifie ce qu'il y avait dans Fury Road. C'est vraiment, c'est une ligne droite avec un convoi, en fait, un western, quoi, avec une diligence qui est attaquée, voilà, de part et d'autre.
C'est vraiment ça, c'est vraiment la diligence attaquée par
complètement. Par les Indiens. On est dans une autre mythologie qui est un peu plus cinématographique, mais ça me fait penser, quand tu me dis les Valkyries, ça me fait penser à une réplique à la fin du film d'ailleurs, quand donc les personnages de la citadelle voient Furusa s'élancer pour assouvir sa vengeance, et on dit, ah, c'est le cinquième cavalier de l'apocalypse,
oui,
comme
c'est
ça,
l'ange,
voilà,
des ténèbres, etc.
Voilà, l'ange des ténèbres. Donc en fait, il y a quelque chose comme ça qui pourrait être intéressant si c'était pris en charge, en tout cas plastiquement. Enfin voilà, je trouve les deux pôles, on va dire, du film un peu trop séparés. Et un exemple très simple, voilà, c'est l'action est découpée en trois lieux. Hein. Donc, dans Fury Road, c'était très simple, il y avait une citadelle, on faisait un aller-retour. Là, on a trois lieux, donc on passe un
petit peu. Qui était déjà dans Fury Road, mais qui était un peu hors champ, qu'on voyait de loin. Ouais.
Alors que là, ils sont vraiment filmés, ils sont le théâtre de scènes d'action vraiment très réussies, ça, j'insiste là-dessus. Donc, pas un mauvais film, on n'est pas en train de dire ça. Simplement, je trouve qu'il y a une forme de fragmentation quand même qui colle pas tout à fait avec l'horizon initial, on va dire, de Fury Road, qui pourtant est rejoué. Donc en fait, on le sent presque un peu tiraillé entre, comme tu disais, entre Fury Road et 3000 ans à t'attendre. Voilà, comment faire la synthèse des deux, c'est pas évident.
Parce qu'il est tributaire d'un récit, là où Fury Road, quelque part, rebootait une mythologie qui était la mythologie Mad Max.
Parce que la page blanche, presque.
Mais c'était l'idée du fond vert comme la page blanche qui va permettre de tirer la meilleure version possible d'une histoire qu'on avait déjà racontée. Alors que là, il est dans la continuation ou dans l'antériorité de retracer.
En plus, parce qu'on est, on est avant la page blanche, mais du coup, la page blanche est déjà remplie.
La page blanche est déjà remplie. C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une scène assez. On peut terminer là-dessus, c'est un détail, mais c'est pas inintéressant. Il y a un moment, l'ancien baron qui dirige la citadelle pétrolière est dans la reproduction d'une image. Il est en train de créer cette image, de la recréer bout à bout. Et il y a un petit peu un jeu qui se fait là-dessus.
D'être sur des nymphes, là. Voilà.
C'est ça, exactement. Et d'une certaine manière, le film est aussi dans cet horizon-là, c'est-à-dire de faire un décalque de l'imaginaire de Fury Road, de combler un peu les zones d'ombre. Mais on le sent moins libre et moins libéré que ne pouvait l'être Fury Road, qui en fin de compte, d'une certaine manière, son scénario était réduit à quelque chose de très élémentaire, et tant mieux. Et là, au contraire, on est dans un imaginaire qui est celui de la fresque, etc., et qui n'est pas la partie la plus réussie du film.
Oui, ça peut engourdir le film, quoi, en gros, enfin, c'est ça le risque. Je pense qu'on peut s'arrêter là, si Sophie, tu as quelque chose à ajouter.
Non, très bien.
En tout cas, le film sort en salle, donc mercredi prochain. Vous verrez cette vidéo quelques jours avant la sortie du film dans les salles françaises. Voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle Bulcanoise. Tout de suite, c'est La Carte Blanche. Alors pour cette deuxième carte blanche, je voulais vous parler du film qui a été présenté en ouverture d'Un Certain Regard hier, donc un film de Runar Runarsson qui s'appelle When the Light Breaks. Donc je ne ferai pas l'affront de prononcer le titre en version originale islandaise, puisque donc c'est un film islandais, un film de deuil. En fait, on va suivre deux personnages féminins qui sont toutes les deux endeuillées par la disparition un peu tragique d'un garçon, donc, dont l'une était la copine et l'autre était l'amante. Et donc forcément l'amante va pas pouvoir faire son deuil au même titre que la copine officielle, entre guillemets. Donc c'est un film qui, a priori, donc donne pas trop envie, dit comme ça, et pourtant qui recèle quelques qualités. Alors, le film n'est pas sans limite, mais en tout cas, je vais m'attarder un petit peu sur ce qui m'a intéressé. En fait, le film fonctionne sur, justement, il faut prendre le titre un petit peu au pied de la lettre, c'est-à-dire que il y a un moment, on va exposer quelque chose sur une situation, les plans vont s'étirer, puisque les plans sont assez longs, ce sont souvent des plans fixes, ou alors des plans avec un léger mouvement, mais quelque chose va se briser, quelque chose va se fissurer au bout d'un moment dans la scène, et c'est ça qui m'a vraiment plu, puisque le film va pour le coup mettre en place beaucoup de situations où on sent quelque chose se craqueler, et les fêlures et fissures vont se multiplier à travers le temps, et donc on va avoir comme ça une série de scènes où à chaque fois il y a quelque chose qui vient se briser, se casser. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que le titre renvoie aussi « When the light breaks », donc quand la lumière se brise, à un moment de la journée qui est le crépuscule, en fait. La particularité de l'Islande, vous le savez sûrement, c'est que donc il peut avoir des journées qui durent très longtemps. Et donc le soleil met très longtemps à se coucher. Toute l'intrigue, en fait, va se dérouler sur une seule journée, presque une longue journée en Islande. En fait, il y a plusieurs jours qui se passent avec l'ensoleillement qui s'étend. Et donc le film va vouloir mettre en place des situations assez intéressantes ou des situations dramatiques pour le coup, puisqu'on est vraiment dans un film de deuil un petit peu stéréotypée, on va dire, mais en tout cas qui va pouvoir mettre en scène des situations où souvent vous avez voilà, deux personnages dans le plan, et puis d'un coup il y a un troisième personnage qui va apparaître un petit peu à retardement dans le plan pour venir casser la dynamique qu'il y avait initialement. Ce qui est très beau, c'est que évidemment ça ne s'arrête pas là, il y a quelque chose d'assez chouette qui se passe à la fin, où on va dire que plutôt que de la dynamique de cassure ou de brisure qui s'est mise en place quand même pendant une heure, le film dure 1h20, les 20 dernières minutes vont être plutôt une logique de fusion, on se doute, entre les deux personnages féminins. Je vais pas en dire plus puisqu'il y a quand même de belles idées de mise en scène. C'est un film qui restera pas forcément dans les mémoires, mais en tout cas qui a des qualités, et c'est quand même assez rare voilà, de trouver aussi des bonnes surprises comme ça, parce que moi c'était une vraie découverte, je connaissais pas le cinéma de Runar Runarsson, mais voilà, c'est quelque chose, peut-être un nom à suivre, ou en tout cas un film à repérer pour sa sortie en salle dans les prochains mois.